Merci d'être là, chacun, chacune. C'est notre troisième atelier biblique et je remercie Michel Serex d'avoir préparé la thématique de ce soir, puisque nous allons parler de l'histoire de l'EM, l'histoire de notre Église, d'une communauté qui nous tient très à cœur. J'aimerais juste lire quatre versets, je crois, dans le livre des psaumes, avec un auteur particulier dans le livre des psaumes, puisqu'il s'agit de Moïse. Et au psaume 90, nous lisons ceci, au psaume 90 de Moïse. « Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. » Et les deux derniers versets de ce psaume, « Que nous puissions encore te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et j'aime le lien que ce psaume fait entre la très grande histoire de la fidélité de Dieu qui remonte aux origines du monde et puis sa fidélité aujourd'hui pour nous, avec ce souhait, je pense, qui nous habite tous et toutes, que nos descendants, que les générations à venir le connaissent, lui, le grand Dieu. Et pour cela, eh bien, qu'il nous soit en aide, finalement, dans notre travail, dans notre action, affermis l'ouvrage de nos mains. J'aimerais juste prier encore. Cher Seigneur, on t'est infiniment reconnaissant pour ta grandeur et ta fidélité. Tout au travers de l'histoire du monde, tu as été au rendez-vous. Comme tu l'es aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de notre communauté locale, avec les défis que nous connaissons. Alors nous nous recommandons à toi, nous te prions de nous faire la grâce d'apprécier l'histoire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui encore, et nous te demandons encore de nous faire grâce en affermissant le travail de nos mains. Conduis Michel dans ce qu'il a préparé, réjouis nos cœurs et aide-nous à nous projeter de l'avant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonsoir.
Salut.
Salut Michel. Salut. Alors Philippe donc m'avait demandé un jour de...
Lève le micro.
Comme ça?
Ouais. Ouais.
Plus fort?
Non.
Oh, ça...
Ok, merci. On y va. Donc Philippe m'avait demandé de retracer l'histoire de l'EM, puis également de mettre en avant quelques constantes, quelques accents qu'on pouvait relever dans cette histoire. C'est un jour où je ne devais pas être très en forme parce que j'ai accepté. Mais bon, une fois qu'on a accepté, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, faire de l'histoire, il faut quand même prendre des précautions, parce que vous savez ce que c'est l'histoire, il y a des sources, et puis on puise dans des sources, donc on puise déjà avec un certain regard, il y a déjà des sources qu'on n'a pas trouvées, il y a des sources qui ont disparu, il y a le regard qu'on porte dessus, il y a le choix qu'on fait, puis il y a la manière dont on y transcrit, et dont on y transmet. Donc ça fait quand même beaucoup de... possibilité de biais dans le rapport qu'on fait d'une histoire. Voilà, maintenant que j'ai pris mes précautions, je peux aller de l'avant. Vous êtes presque forcés de m'excuser pour toutes les bêtises que je vais dire. Donc on fête cette année les 60 ans de l'EM, entre 2023 et 1963. Je vous propose même d'aller un petit peu avant... Hop là. Un petit peu avant 1963, de jeter un coup d'œil en arrière, un coup d'œil dans le rétro, et de revenir ce 28 mai 1962 à une rencontre de frères, parce que c'est des frères qui se réunissent, la rencontre de frères de la communauté évangélique de Collevraire, de l'assemblée évangélique de Collevraire. C'est un lundi soir, le 28 mai 1962, et vous voyez que l'objet de la rencontre, c'est concernant l'avenir de notre assemblée. Et dans l'introduction, la personne qui a écrit ce document, qui fait 8 pages à 4 en petits caractères, comme vous les voyez, dit « Nous sommes réunis pour une question vitale concernant notre petite église locale que nous posent brusquement les circonstances extérieures. » C'est-à-dire, quelles sont-elles, ces circonstances extérieures, la vente et la désaffectation de la ferme et du local qu'elle abrite. Donc on est là, dans une église qui se rencontre dans une ferme. C'est un peu étrange. Voilà la ferme dont il s'agit. C'est le local, là, il est désigné par une flèche rouge. C'est sur la commune de Bellevue. C'est la ferme, à l'époque, qui est la propriété d'un homme qui s'appelle Henri Girardet. Mais, en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont se réunir dans cette ferme ? Ben, pour le comprendre, il faut revenir en 1900. À ce moment-là, il se trouve que sur le canton de Genève, il y a pas mal de fermes qui sont disponibles. Et il y a toute une série d'agriculteurs qui viennent, en général, soit de la côte, il y en a plusieurs qui viennent de la région d'Aubonne, il y en a qui sont originaires d'un peu plus loin, de Maracon, de la Rogivue, qui se déplacent sur Genève pour louer ces fermes. Et dans cette région de la rive droite, où il y a Gentot, Bellevue, Chambézy, il y a une série d'agriculteurs qui ont repris ces fermes et qui sont justement des chrétiens évangéliques. Ils ne sont pas convertis sur place, ils viennent en venant de ces régions, en dessous d'Aubonne en particulier, où il y a eu un réveil profond. Et leur seul lieu de culte, c'est de descendre à la Pélisserie, au centre-ville. Ce qui est quand même assez compliqué quand on a un train de ferme, ça veut dire du bétail, ça veut dire des employés à table tous les jours, y compris le dimanche. Vous imaginez le truc, descendre en 1900 à cheval jusqu'au centre-ville. Hein. C'est vraiment une grosse affaire. Donc, Henri Girardet décide avec les autres personnes qui sont là autour, les autres familles d'agriculteurs, de constituer une petite église, une petite assemblée dans son bâtiment. Et alors il va, parce qu'ils ont déjà eu des liens avec les gens de la pélisserie, mais il va les avertir. Ils vont leur envoyer une lettre pour leur expliquer le pourquoi du comment. Ce sera moyennement bien reçu parce que c'est des gens jeunes. Ils ont Henri Girardet, à ce moment-là, en 1900, il a 29 ans, déjà plusieurs enfants. Et puis. Évidemment, les gens de la pélisserie disent « Oui, mais enfin, vous nous enlevez des forces vives. » Mais voilà, les circonstances font que c'est effectivement la meilleure manière de procéder. Et on voit là, c'est le dimanche 11 février, qu'ici eut lieu la première rencontre autour de la table du Seigneur des quelques enfants de Dieu de la contrée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est typique de la manière de fonctionner. Hein. Voilà, donc là, on est 49 ans plus tard, l'Assemblée s'est développée. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sur cette photo. Oui. T'es où, ici? Ah, je ne sais pas si on ne voit pas là. Voilà. Et là, en fait, l'escalier monte justement au local de culte qui est là en haut, derrière les fenêtres.
Mais il y avait du monde.
C'est pas beaucoup de familles, mais pas mal de, pas mal de population. Mais on peut revenir à ce document de 62 qui dit « Les circonstances nous obligent ». Quelles sont ces circonstances ? Ben, ces circonstances, c'est la disparition programmée de la ferme parce que la piste de Cointrin avance en direction du lieu de culte. Vous voyez, le lieu de culte, il est dans le cercle rouge. La piste, là, c'est en 1959. Les terrassements ne sont pas finis, mais effectivement, l'axe se rapproche dangereusement. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la ferme va être démolie, achetée et démolie par l'État. On comprend que l'avenir est inquiétant. Et si on regarde en 66, ce qui s'est passé, là, les terrassements sont finis. Il reste de la ferme que quelques hangars. Le bâtiment d'habitation a disparu. Et puis une autre ferme qui était dans le prolongement de la piste, qui s'appelait l'Ermitage, a également disparu. Les gens sont partis. C'était aussi des gens qui venaient dans cette assemblée. Ce qui est remarquable, si on revient à ce document de 62, c'est... C'est ce qui est dit ici. Derrière les circonstances, nous voulons, en dernière analyse, reconnaître la main de notre Dieu. Ne serait-ce pas le Seigneur qui permettrait ces circonstances qui nous contraignent de sortir d'une période de paisible bonheur ensemble pour entrer dans une période où nous chercherons à mieux partager avec la population qui nous entoure cette joie du salut que nous chantons dimanche après dimanche. J'ai trouvé très drôle cette mise en parallèle de ce qu'on chante et mais comment on va y mettre, comment on va y partager, hein? Comment est-ce que... Alors en fait, il y a une discussion qui s'engage. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a différentes options qui sont possibles. Il y a une proposition, par exemple, de construire une chapelle sur un terrain qui n'est pas très loin, à Birlou. Il y a une proposition de trouver un local dans une autre ferme, c'est une option qui sera choisie par certains. Et puis, mais la question qui sous-tend toute cette histoire et qui apparaît très clairement dans le document de 62, c'est est-ce que ce n'est pas un risque de se retrouver enfermé comme dans un bocal? En fait, la réponse, elle va venir de Mérin, un couple de l'église. Francis et Eva Dufour ont déménagé quelques années auparavant à Mérin, et à Mérin, eh ben, ça bouge. Et, parce que ce qui se passe, c'est qu'on construit à Mérin la première cité satellite de Suisse. Hein, vous voyez les tracts au travail, là. On a la place blanche, là, c'est à peu près, je pense, le travail des giratoires. Et puis, la place blanche et les immeubles du fond, il y aura encore le centre commercial. On voit déjà les immeubles typiques, hein, ces immeubles avec les façades d'aluminium. Voilà. Et Mérin, ça bouge très très vite. En 3 ans, le projet de la cité a été finalisé et ils ont eu l'autorisation de construction en 4 mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Maintenant, peut-être en 15 ans. En 1964, Mérin est passé de 2500 habitants à 10 000 habitants. Entre 60 et 64, il passe de 2500 à 10 000. Avec une population très diversifiée, parce que pourquoi ils choisissent Mérin pour implanter cette cité? C'est parce qu'il y a le développement du CERN, avec un besoin de logement important, et puis il y a le développement de l'aéroport, celui qui a poussé l'église à partir, eh ben, l'aéroport se développe, et puis ils vont loger ces gens. Donc, après que Francis Dufour ait présenté aux frères cette option de déplacement à Mérin, il y a une discussion qui s'engage. Et puis, il est mandaté pour prendre contact avec le pasteur Lacroix, qui est un pasteur que l'Église protestante avait nommé pour évangéliser, pour prendre contact avec tous les protestants qui arrivaient dans la cité. Et ce pasteur Lacroix accueille très favorablement l'assemblée, il ne faut pas dire l'église, il faut dire l'assemblée de Colleuvret, en disant, mais oui, c'est vrai, là, il y a un champ missionnaire dans lequel vous pouvez travailler. Et il propose ce local, que ce local de la salle radieuse, que l'église protestante et la paroisse de Mérin ont déjà loué, et il propose de partager l'utilisation de cette salle. Alors, ils vont partager l'utilisation de la salle, mais pas tout à fait de manière commune, c'est-à-dire qu'il y aura un premier culte évangélique à 9h, puis un deuxième culte protestant à 10h30.
Elle est de quelle grandeur, cette salle radieuse ?
Alors moi, j'ai un souvenir très confus de la salle. La seule chose que je me souviens, c'est d'avoir été grimé en mage Balthazar pour un spectacle de Noël. J'ai cette image, mais je ne me souviens de rien d'autre. Et je n'ai pas été chercher combien elle avait.
Mais c'est quelle rue ?
C'est avenue Vaudagne 31. Donc dans les bâtiments qui étaient déjà construits, pas en haut de la cité, mais en bas, là, qui sont perpendiculaires au Jura, si on veut. On voit le Jura au fond. Et la salle était là, c'était un ré-entresol, et une partie des locaux qui était à gauche, je crois. Au tout début, les premières années, les deux, trois premières années, ça fait 63, 69, non, presque 3 ans, en fait, ils vont fonctionner, les deux églises, l'Assemblée évangélique et la paroisse protestante, vont se présenter, vont fonctionner en tant que communauté protestante. Il se crée, en fait, il y a un conseil commun et des cultes séparés, mais il y a un conseil commun. L'idée, c'est, si on veut être... on veut présenter qu'un front, qu'un visage pour l'évangélisation de la cité, qui est vraiment l'objectif des deux entités. Cette communauté protestante... elle ne va pas durer très longtemps. Fin 65, en fait, il y a des divergences qui apparaissent. Elles apparaissent pour deux raisons. D'une part, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière d'évangéliser. Pour l'Église évangélique, là, on devrait mettre encore Assemblée évangélique, là, c'est une erreur. Il se profile la campagne Leighton Ford. Et on a l'impression qu'il y a des réticences. J'ai jamais vu que c'était exprimé comme ça. Mais dans les PV, on sent quand même que ça a été un point de friction. Ouais. Et puis l'autre chose qui se passe, c'est que la paroisse protestante, dans le développement de la cité de Mérin, il était prévu, dès l'origine, que dans le centre commercial de Mérin, il y aurait des locaux pour les paroisses. Et il y a des locaux pour la paroisse catholique et des locaux pour la paroisse protestante. La paroisse protestante dit, oui, d'accord, on va occuper ces locaux et puis on va entamer une dynamique d'œcuménisme avec la paroisse catholique. Mais évidemment, pour l'Assemblée évangélique, c'est quand même un très gros saut. Il faut penser, ces gens, ils sortent d'un milieu relativement fermé, je dirais, avec un mode de fonctionnement particulier, différent des paroisses. Et puis, déjà, ils doivent assimiler et trouver des chemins avec la paroisse protestante, rajouter encore cet objectif d'un œcuménisme avec les catholiques, c'est trop. Et il y a des réticences qui sont des divergences de vues, ce qui entraîne la dissolution de la communauté protestante proprement dit, mais très rapidement, fin 65, avant même la fin de 1965, après en fait la dissolution, les deux parties expriment le désir de travailler ensemble. Ils disent, ok, on n'arrive pas à aller plus loin, mais notre objectif, qui est d'être témoin dans la cité, reste quelque chose de prioritaire. Et c'est pour ça que l'église protestante de Genève va proposer la chapelle de Mérin-Village à l'église évangélique en disant bah, « Écoutez, continuons à travailler ensemble, on vous propose ce local en location. » Il y avait toujours un culte ici. Et on va se retrouver avec d'ailleurs le même schéma dans la chapelle de Mérin, avec deux cultes, un à 9h et puis un à 10h. Et puis on se croisait sur le parvis. On croisait, je me rappelle très bien avoir vu le pasteur Künzler là, qui arrivait en robe avec la collerette, et puis qui traversait, parce que les évangéliques ils pèdent toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, alors la chapelle de Mérin-Village, là vous avez la photo de gauche, c'est la photo à l'inauguration, 1910, en mai. On voit les arbres, je ne sais pas si vous voyez, à droite de la croix, l'arbre le plus fignolet là, c'est le cèdre. Hein, c'est pas mal, c'est intéressant à voir. Il y a 2-3 tonnes de carbone qui sont stockées. Et puis une sortie, ben justement on voit le cèdre là sur l'autre photo. Cette chapelle, elle a quelque chose de particulier. Elle est construite sur un terrain qui a été donné par une famille, avec la clause qui dit on donne ce terrain, mais il faut que le bâtiment qui soit dessus soit affecté au culte protestant. Et puis, l'autre chose qui est particulière, c'est que c'était en fait, il y avait une seule paroisse qui était Vernier-Mérin. Et ça, c'est la deuxième église de la paroisse. Ce qui fait qu'elle n'a pas de presbytère et qu'elle n'a pas de locaux annexes. Elle n'a pas de salle de paroisse. Ce qui va avoir des conséquences, comme on va le voir. Alors, maintenant, un petit slide sur le fonctionnement de l'EEM. Voilà. De 63 à 71, en fait, la conduite est assurée par un groupe informel qui s'intitule lui-même les responsables. Et puis, c'est lui qui a conduit cette transition. En fait, ils sont dans la droite ligne du fonctionnement des assemblées de frères, où c'est un groupe non élu quelque part. Il y a, Charles Abel me disait, mais tu sais, c'est ceux qui avaient le plus fort caractère qui s'imposaient, puisqu'il n'y a pas d'élection. Ce groupe engage un pasteur en 66, Charlie Cortet, qui est la personne qui a rédigé le document de 8 pages de 1962. Là. Donc quelqu'un qui a été missionnaire au Laos, qui a ensuite fait des études de théologie à la faculté libre de Lausanne, je crois. La faculté de l'église libre, des églises évangéliques libres de Lausanne, voilà, du canton de Vaud. Et à partir de 66, avec l'engagement de Charlie Cortet, il y a un cahier des charges qui lui est proposé déjà, et puis aussi un cahier des responsabilités qui définit les fonctions des responsables, donc un début de structuration quelque part. Et puis ce cahier des responsabilités est présenté à l'Assemblée tout entière lors d'une agape, c'est précisé, lors d'une agape, donc lors d'un repas. Et puis, qui sont les gens et que font-ils ? Voilà. Un peu plus tard, en 71, la structure évolue parce que l'Église grandit, puis il faut prendre d'autres engagements. On est entre deux ministères pastoraux, puisque celui de Charlie Cortet s'est terminé en 68, et puis Armand sera engagé en 71, Armand Heiniger. Donc il y a Armand Heiniger, en fait, a posé comme condition, je suis d'accord de venir comme pasteur, mais je veux qu'il y ait un conseil nommé. Ici, voilà. C'est ça que je cherchais.
Les stats sont là.
Non, ça va. Donc en 71, il y a la première assemblée générale, qui, comme vous le savez, s'appelle colloque, et un deuxième colloque. Et lors du deuxième colloque, on élit 4 personnes comme anciens avec un mandat de 2 ans. En 1972, il se passe une chose, donc on a vu que la chapelle n'avait pas de locaux. La parcelle qui jouxte la parcelle de la chapelle, là, la chapelle au bout de la flèche rouge, la parcelle qui jouxte, qui est cette parcelle étroite, elle vient en vente. Et il y a des gens de l'Église évangélique, mais également de la paroisse protestante, qui vont acheter des parts. Et ça va être une copropriété d'une vingtaine de personnes. Ce qui permet de résoudre, pour une part, le problème des locaux annexes. Et là, on voit toute une équipe dont on reconnaît peut-être quelques personnes, en jaune particulièrement. Voilà. Et puis, sur la voiture, justement, Francis Dufour sur la voiture. Puis le deux à gauche de Francis, c'est Armand. Quand on zoome beaucoup, on arrive à reconnaître. Voilà.
Mais la photo, elle date pas de 72, là. Parce que nous, on était encore pas là.
Je sais pas. Peut-être que la photo ne date pas de 72. Mais voilà, je pense que c'est peut-être une réfection peut-être du toit. Un entretien, voilà. Et puis, un peu plus tard, en 77, l'annexe 2, où d'autres personnes referont également le toit. On en reconnaît aussi quelques-uns, si on cherche bien. Et c'est là que débutera la garderie, la framboise. Hein? Annexe 2, oui. Voilà. Si on revient au document de 62, il disait les circonstances nous obligent, mais nous chercherons à mieux partager la joie du salut. Et c'est ce qui, en fait, se passe avec l'annexe 2 et les débuts de la framboise, parce que la framboise a vraiment été conçue par ses fondatrices, Brigitte et Cécile, comme un témoignage de l'amour du Christ pour les plus petits. Alors on voit les débuts en noir et blanc, évidemment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de couleur, et la situation maintenant. Le désir de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle s'exprime tout au long de l'histoire, tout de suite en 67, avec quelque chose qui était intitulé « Banbible des protestants », donc qui était fait vraiment en collaboration avec la paroisse protestante, qui était un stand de Bible que le centre commercial avait accueilli. Et puis, vous voyez, 68, un concert à la kermesse œcuménique, une exposition biblique au cinéma Cosmos. Vous vous souvenez du Cosmos, ouais, qui a disparu. Et puis, de 77 à 87, le travail de l'association du Coffee Bar. Alors là, j'ai une photo là. Ouais. Ça c'est vraiment le souci de rencontrer les jeunes dans la cité.
C'était pendant la fête villageoise.
Ouais. Et puis, en 91, cette expo Bible qui était faite pour les... C'était exactement le titre, c'était « La Bible en Suisse », parce que 1991, les 700 ans de la Confédération, la société biblique avait monté une exposition qui s'appelait « La Bible en Suisse », 700 ans, la Bible en Suisse. Et puis, il y avait une réplique de la presse à Gutenberg pour imprimer le psaume 23. On voit que les deux actions s'adressent à des publics différents. On voit bien, ce n'est pas les mêmes clients. Hein. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il faut être un peu large. Voilà, quelques autres actions qui se sont déroulées, et qui se déroulent parfois encore. Le Joie à Noël, le développement anti-zone, il y a eu tout un moment aussi un groupe, Eduardo, Donata, François, je crois.
François Bachet, puis Alain Chanson.
Alain. Qui rencontrait les gars qui tournaient là autour, quoi, pour créer des liens. Et puis, qui portaient des fruits. Les stands à la kermesse œcuménique, des cours alpha, on a eu, le Merin-les-Bains, l'Ethnopolis également. Tout ça, c'est fait dans le même esprit. Je relève encore deux où j'ai trouvé des photos, parce que pour un PowerPoint, si t'as pas de photos, c'est moins bien, quoi. Voilà. Mais qui était quand même assez super, Big Bang et création, toute une réflexion sur la foi et la science, science et foi en dialogue, c'était intitulé, avec des conférences, avec une petite brochure rédigée par qu'est-ce qu'il y avait, Roland Benz, Jean-Jacques Mélan et Sylvain Dupertuis, donc deux physiciens, un mathématicien, un physicien.
C'est une exposition qui a été créée ici à Merle.
Qui a été créée ici, à l'impulsion de quelques membres de l'Église, et qui a été reprise par la société biblique et déployée à d'autres endroits. De la même manière, et dans un autre registre, le chemin de la passion, en 2016. Voilà. Vous vous en souvenez peut-être, c'était une très belle opération. Alors, les trois communautés, paroisse protestante, paroisse catholique et Église évangélique, elles ont des actions communes à géométrie variable, c'est vrai. Et toutes ces actions, elles ont été possibles parce qu'il y a eu ce groupe de réflexion œcuménique qui avait réfléchi, mais si on fait des choses ensemble, comment est-ce qu'on les fait pour qu'elles soient... qu'elles soient acceptables par nos paroissiens, qu'elles ne soient pas en contradiction avec ce qu'on pense. Sur quoi est-ce qu'on se retrouve pour mener quelque chose en commun? Et ça a été fait sur, je ne sais plus combien d'années, mais beaucoup... Alors, il y a des... Voilà, on voit des actions qui se déroulent encore.
Il y avait l'abbé Schwendt qui était très ouvert.
Voilà, l'abbé Schwendt, ouais.
Et Jean-Jacques Mélan aussi.
À partir de 1990, on a eu une réflexion sur un agrandissement de la chapelle et des annexes. On voit déjà là... Bon, c'est en 2003, c'est vraiment à la fin, c'est plus que les années 90, je suis d'accord, mais enfin, c'est pas beaucoup. C'était vraiment très plein au niveau des annexes sur la droite, vous voyez que c'est assez cougné aussi. Alors, on a cherché des solutions, la solution de 1994 avec une parcelle toute étroite était assez curieuse. Vous voyez la chapelle en bas, en bas à droite, là, qui a été élargie, elle est presque un carré maintenant. Et puis, on a prévu des annexes qui sont grisées et qui sont susceptibles de se déployer tout le long de la... Mais bon, c'était quand même un peu particulier. La parcelle est longue et étroite. Et ce qui s'est passé au fil des années, c'est que il y a 43 décideurs pour 102 parts. Parce qu'elle est souvent, lors des successions... Elle n'a pas été attribuée à l'un ou l'autre des descendants, parce que les gens sont décédés sans testament, et puis elle s'est trouvée splittée en tout plein de personnes. Alors il y avait des gens qui avaient un 102e.
Ça ne sert à rien.
Si, parce que ce qui s'est passé... Ouais, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu évoluer, c'est que... On a pensé, ouais, mais peut-être qu'on arrive à obtenir, à faire un agrandissement et à obtenir un peu plus loin, un peu de place latéralement. Et on a développé des projets parce que l'Église protestante de Genève, à la demande de l'Église évangélique, a été d'accord d'accorder un droit de superficie et de permettre une construction. Ouais, ils ont accordé un droit de superficie de 99 ans sur la chapelle, ce qui permettait d'imaginer une démolition partielle et des agrandissements. Alors, il y a eu toutes sortes de projets. Suite gauche était un peu moyen. Suite droite, avec la forme de l'ange, là, était très appréciée. Mais... il a buté sur les deux cercles rouges qui sont en haut, c'est-à-dire qu'il fallait obtenir des droits de distance et vue droite du voisin là-bas derrière, qui a tout de suite donné une fin de non-recevoir. Donc, en fait, quelque part, on était un peu coincés, quoi. Mais la solution est venue d'en haut. C'était la commune qui a mis en place un plan localisé de quartier, qui redistribuait les surfaces sur toutes ces bandes de terrain étroites. Ces bandes, elles étaient étroites parce qu'en fait, c'était des fois des jardins. Il y avait un maraîcher, c'est pour ça, en fait, il avait une bande qui était là, le long, sur Marmay, qui habitait juste en dessous. Et puis, en fait, en redistribuant les surfaces, on se trouvait avec un carré constructible. Mais il fallait encore convaincre les gens, les détenteurs des 102 parts, de « Mais est-ce que vous êtes d'accord de mettre à disposition de l'Église ce terrain ?» Donc, il y a eu un travail avec une création d'une fondation, et puis poser la question « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous êtes vendeur pour le projet immobilier qui va démarrer ? Ou est-ce que vous êtes non-vendeur et disposé à donner vos parts à la fondation, qui ne les payera pas, allez, donner à la fondation, dans le but de construire un bâtiment à vocation ecclésiale, on peut dire comme ça. C'était même un peu plus que ça, c'était plutôt... la formulation était peut-être un bâtiment qui permette l'annonce de l'Évangile. Et voilà. Alors, en fait, on s'est retrouvé avec cette distribution là illustrée avec les Legos, cette proportion là, et pour relever que dans les parts des propriétaires non vendeurs, ce que j'ai nommé propriétaires non vendeurs, à peu près 50% des parts viennent de la paroisse ou de gens ou de paroissiens. Qui les mettait à disposition.
Ça veut dire qu'ils les donnaient, en fait, c'est ça ?
Oui. Ce qui a été fait, c'était... parce que la fondation, après, elle est dirigée par un conseil de fondation. Alors, qui dirige ? Alors, on a fait un prorata. On a regardé, il y a à peu près 50-50. Donc, on va faire une direction moitié-moitié. C'est-à-dire que le conseil est... de la fondation, qui est l'organe de décision, est moite-moite. C'est comme la fondue, quoi. Mais on espère que ça ne tranche pas.
Michel, la fondation a été faite au moment du plan localisé de quartier.
Ouais, en fait, les choses se sont... quand on regarde, ça a été fait à la... parce qu'il y a eu le plan localisé de quartier... on a créé la fondation parce qu'il fallait savoir si les gens voulaient vendre ou bien s'ils étaient non-vendeurs et puis comment on recueillait les parts non-vendeurs pour en faire quelque chose. L'avantage d'une fondation, c'est qu'elle a un but et qu'elle ne doit pas déroger au but de la fondation. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc c'est une manière de détenir la parcelle qui est très sûre. Et le but de la fondation, c'est... permettre et proclamer l'Évangile, ou quelque chose, permettre la proclamation de l'Évangile, je crois. Là, alors, en fait, tout ça, ça a permis... la Fondation a accordé un droit de superficie à l'EM et elle est entrée dans sa nouvelle église en 2005. Ça, c'est exactement une vue 2005. Donc, on a exactement... Vous voyez que la pelouse n'est pas encore semée. Et le parking n'est pas terminé non plus. Il n'est pas goudronné.
Vous n'avez pas de drone pour prendre des photos.
Voilà, et on est entré dans la nouvelle église en 2005. Alors, toutes ces interactions entre la paroisse protestante sont régies, encadrées par une convention ecclésiale qui précise d'abord que les gens s'informent mutuellement, ce qui est quand même assez important parce qu'on ne fait pas des choses dans le dos de l'autre, normalement. Qui donne un cadre aussi pour les cultes en commun, qui donne aussi un cadre pour l'enfance et la jeunesse, par exemple. Est-ce que baptiser, imaginons quelqu'un vient de la paroisse, est-ce qu'on va le baptiser ici sans rien dire, est-ce qu'on va discuter, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y ait des choses qui se valent quelque part, ouais. Elle définit le cadre de l'aumônerie. Et puis, elle précise aussi, pour l'utilisation de la chapelle, que la paroisse a un droit d'usage prioritaire pour une utilisation s'il y a en même temps des tiers qui aimeraient louer. La paroisse protestante est prioritaire. Et puis, pour ce bâtiment, la paroisse protestante a un droit d'usage qui est proportionnel à son droit, à son apport de terrain. Et il y a un calcul... qui a été fait, qui est prédéterminé, dont les paramètres sont prédéterminés, et qui est en annexe au statut de la fondation.
C'était pas de construire une étage supplémentaire.
Alors, il pourrait le demander. À ce moment-là, il faudrait qu'ils le construisent à leurs frais, parce que les droits qui restent de construction suffiraient, je pense, à valoriser leurs droits d'usage. Le droit d'usage, il est aussi calculé en temps et en surface. C'est-à-dire, la paroisse peut utiliser une salle de tant de mètres carrés pendant tant de jours par année, non cumulable d'une année sur l'autre, heureusement. Parce qu'autrement, on pourrait avoir des surprises. Ils n'ont jamais utilisé, ils n'en ont jamais eu besoin, non plus.
Mais il semblerait que, comme on m'a dit, que pas le bâtiment, pas la chapelle, pas la salle, à ce côté, c'est prévu pour qu'on puisse agrandir dessus, pour que la paroisse protestante, si elle veut, parce que le droit d'usage au sol est complet.
Oui, sur le foyer, il y a une possibilité de construction.
C'est prévu au niveau résistance
et il y a les droits de construction avec le coefficient d'utilisation du sol permet de faire ça. Mais le droit d'usage pourrait s'exprimer d'une autre manière. C'est ça qu'il faut être conscient. Le droit d'usage de la paroisse, il peut s'exprimer par la demande d'une salle pendant, j'ai pas en tête le calcul, mais pendant tant de temps, par exemple, je sais pas, un après-midi, mais je veux pas dire des bêtises, pendant tant de temps en heures sur l'année ou regroupé sur 6 mois, voilà, ça peut être aussi ça. Ils ont pas besoin de construire pour faire valoir leur droit d'usage.
C'est pour ça qu'il y a 2 interrupteurs dans la salle en bois qui s'appellent, je n'ai jamais le nom, parce que c'est prévu de diviser en 2, l'électricité est déjà prévue pour pouvoir séparer cette salle. Il y a qu'à casser le mur pour faire
les lucioles.
Alors toutes ces constructions, oui, pardon,
juste une question sur la reconnaissance du baptême.
Ouais.
Comment
il faut chercher là. Il faut chercher le document, j'ai pas ça en tête.
C'est une décision qui a été mûrie en colloque, parce que c'est un truc assez énorme en fait, de reconnaître, pour une église évangélique, de reconnaître le baptême.
Mais la reconnaissance du baptême, elle date pas de ce document-ci. Elle est préalable.
C'est d'autant plus grand qu'un.
Moi, je me rappelle, j'y ai participé.
Non, je pense même peut-être qu'elle date d'avant, non.
Le groupe de réflexion œcuménique, on avait discuté de ça. Et la solution, dans le groupe de réflexion œcuménique, proposée aux 3 églises, c'est que nos églises reconnaissent le baptême des autres communautés, pendant que les catholiques ou les protestants le baptême des enfants, si eux-mêmes le reconnaissent pour eux. Et nous ne pratiquons pas le baptême d'enfants, mais elles reconnaissent aussi notre baptême d'adultes. Mais on reconnaît les autres baptêmes.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Je pense que c'était ça la grande chose. On n'a pas dit, le baptême catholique, ça ne vaut rien du tout. Pas du tout. Il y a eu toute cette réflexion. Ça a été pas chaud, mais ça a discuté sympa.
On en a eu ici.
Moi, j'ai été.
On en a eu ici.
Et
là,
moi, j'ai été. Mais il
me
semble qu'il y a une chose en plus de ce que tu dis, c'est que ils acceptaient que si une personne baptisée enfant demandait un baptême d'adulte pour être baptisé dans les conditions où elle le fait consciemment, c'était aussi accepté. Ce qui n'est pas toujours facile pour eux. Ouais. Mais on essaye de dire, on permet à une personne qui a été baptisé enfant d'avoir un baptême d'adulte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas son baptême d'enfant. C'est une démarche pastorale. Voilà.
Juste pour mémoire, on a parlé de la communauté protestante 1963-65. Dans les documents que j'ai, il y a toute une étude à ce moment-là sur le baptême déjà. Parce que en vivant ensemble, paroisse protestante et assemblée évangélique, excusez-moi, il fallait s'entendre sur ce point. Et le conseil commun de la communauté protestante, il y a l'étude, j'ai l'étude avec les questions, qu'est-ce qu'il faut, voilà, il n'y a pas les réponses.
Michel.
Je suis arrivée à fin septembre bien, il y avait un culte par mois qui était donné par un pasteur.
C'est juste.
Et c'était à cette occasion-là qu'il y avait des baptêmes de protestants d'enfants.
Oui, tout à fait. Oui, il y a eu tout un temps où il y avait un culte par mois, entre autres avec, je me souviens bien, avec le pasteur Senou, entre autres.
Oui. Parce qu'on faisait des cultes ensemble, tout à fait.
Il y avait un culte par mois qui était avec une échange de chair.
Mais ça crée quand même quelques problèmes, ça. Tu as discuté, quand même.
Il y a eu ici aussi des baptêmes d'enfants. Bon, alors le truc quand on investit beaucoup dans le bâtiment, c'est que on risque de ça risque de devenir quelque chose de tellement prégnant qu'on perd un peu et on perd un peu la vision. Et puis c'est ça qu'il faut pas ne pas oublier la vision qui est quand même le but, un des buts de l'Église, qui est de partager la bonne nouvelle. Parce que ça c'était Marc l'expérience, si vous vous souvenez, hein, on apprenait 15 personnes, une quinzaine de personnes apprennent l'évangile et le jouent dans une salle. On l'a fait au Boudin. Au Boudin et puis à Verchères, ouais, deux endroits. Ça, c'était très beau.
Non, c'était pas au Boudin, c'était
au Livron. Ah ouais, au Livron, à la salle, l'école du Livron et puis à la salle Verchères. Non, c'est pas vieux, non.
C'est
ouais.
2013,
ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais.
Ah ben ça fait 10 ans.
Oui, ça doit être ça.
Ça doit être ça, ouais, ouais. Et puis plus récemment, là, encore en 2017, c'était bien dans cette idée-là qu'on avait fait ce Noël en plein vent sur la place du village. Alors, il y a eu trois versions. Il y a eu la première devant la chapelle en 2010. En 2011, on l'a fait devant le CEPOM. C'était un très bon point de vue organisation de la scène. C'était bien parce que les spectateurs pouvaient bien voir parce qu'on jouait en bas et puis les gens étaient en haut. Et puis, en 2017, le dernier, là, sur la place, là. Voilà, j'ai prévu de faire un petit tour dans les statuts, mais peut-être que vous les connaissez par cœur. Les statuts, il y a des buts, proclamer l'évangile, ouais, très clairement. Et puis, nos statuts ont une chose particulière, c'est que est membre toute personne qui le demande et qui adhère à la confession de foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prérequis, par exemple, sur le baptême, etc. On a des assemblées générales minimum deux fois par an. Elle s'appelle toujours colloque, on est toujours forcé de traduire, qui élit le conseil, approuve les comptes, décide de l'engagement de pasteur et de bien d'autres choses. C'est aussi, c'est vrai, il faut rappeler que les colloques, c'est aussi un moment de partage sur la vie de l'Église. Le conseil qui porte la responsabilité de la vie spirituelle et administrative, ainsi que de la gestion des biens, qui sont élus pour 3 ans. Des vérificateurs des comptes, hein, ça c'est quand même assez important que les comptes soient, qu'il y ait un œil extérieur sur les comptes qui sont présentés. Le pasteur, qui a la responsabilité de la vie spirituelle, de la bonne marche de l'Église, qui prend part aux réunions du conseil, sauf pour ce qui concerne son statut professionnel. Et les ressources financières de l'EEM, des dons et des legs. Il n'y a pas tout à fait tout, mais c'est un document qu'il faut lire régulièrement. Mais il ne fait que 2 pages, hein, il est court.
Mais c'est marqué membre, puis on dit qu'il n'y a pas de liste de membres.
Alors en fait, on liste les membres au moment où on fait une élection. Parce que pour une élection, il faut savoir qui va participer pour pouvoir déterminer qui a le droit de vote. Donc il y a bien une liste de membres. Sauf parce que alors ça c'est un choix. Puisqu'il y en a une. Pourquoi dire qu'on n'en fait pas puisqu'il y en a une? Le truc en fait avec les listes de membres, c'est le vieillissement de la liste. Parce que il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et à quel moment en fait les gens entrent et à quel moment les gens sortent? S'il y a des gens qui partent et puis vous ne savez pas, tout d'un coup Vous ne savez pas. Est-ce qu'ils sont membres ? Ils ne sont pas membres. S'ils sont sur la liste de membres, ils restent membres. Et il faut aller leur demander, mais est-ce que vous voulez rester ? En fait, cette question, elle se pose régulièrement, au minimum tous les 3 ans, lors des élections de conseil. Donc, quelque part, le système qu'on a, il permet une mise à jour de la liste de membres au minimum tous les 3 ans ou toutes les élections. Imaginons que tout le conseil ne se change pas en une fois, par exemple. C'est un système, personnellement, je trouve qu'il n'est pas si mauvais, parce que quand on discute avec les autres églises, ce problème d'aller demander aux gens, oui, mais est-ce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, et puis voilà.
En pratique, elle a été renouvelée la plupart des fois, elle a été renouvelée, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de se redéclarer explicitement membres.
Oui.
À presque chaque élection, puis il y a des fois où on estimait qu'elle avait pas beaucoup bougé, puis on a simplement demandé aux gens pour accueillir les nouveaux, mais sans
demander une réinscription. Voilà.
Mais je crois qu'il n'y avait pas de membres parce qu'aussi, pendant tout un temps, on avait les cultes. Il y avait des protestants qui venaient au culte à la chapelle pendant les cultes évangéliques. Ouais. Et c'était pour pas faire une ségrégation avec les gens. Moi, je suis évangélique, moi, je suis protestant, etc. Après, les protestants, petit à petit, se sont tous regroupés au centre œcuménique, mais on avait les potes, les écoles du dimanche étaient en commun, les catéchismes étaient en commun.
Ouais.
Voilà. C'était pas aussi séparé que maintenant.
Alors ensuite, j'ai. Voilà, ça c'est les. Une photo avec les différents bergers qui ont conduit le troupeau de l'EM à travers les 60 ans. Il devrait y avoir un petit blanc parce qu'il y a eu des moments où il n'y avait pas de pasteur. Hein.
Après Jean-Jacques, il y a pas dans un an.
Voilà, et puis après Charlie Cortet aussi. Ah, je pense que vous arrivez à mettre les noms sur tout le monde, à peu près. Charlie Cortet, Armand Heidi, Bernard et Sylviane, Jean-Jacques Mélan et Liliane, Harry et Catherine. Puis alors après, ils ont perdu leurs épouses. C'est parce qu'après, c'est moi qui ai dû aller chercher les photos, puis que je n'ai pas trouvé d'autres photos que celles-ci. Voilà. Et je n'avais pas des images de couple. Voilà, voilà pourquoi. Voilà, alors, et maintenant, ben voilà, on est en 23, puis il y a 2 petits points après. Je suis assez pessimiste parce que j'aurais pu mettre 2100.
2-0. Enfin, t'as pas mis 2-0-2.
Non, j'aurais pu mettre 2-1.
Ouais, mais le Seigneur va peut-être revenir. On sera 2000, bon, voilà.
Voilà. L'idée, Philippe voulait qu'on trace les points forts. Moi, j'ai pas fait plus que ce que je vous ai montré. J'ai pas fait une liste des accents. J'imagine, si mon PowerPoint est pas trop calamiteux, que peut-être vous les percevez et puis que vous arrivez à les formuler. Une chose, j'ai mis ici les ministères pastoraux. J'ai pensé après, j'aurais dû rajouter un slide blanc en mettant les conseils. Mais parce que les conseils, c'est important parce que parfois ils assurent la transition et puis ils ont aussi la charge de ils portent aussi la responsabilité de la vie spirituelle et de la vie administrative qui n'est pas négligeable parce que s'il n'y a pas toutes sortes de choses qui sont faites, ben, on a vite des problèmes. Voilà. Mais on n'a pas de photos. Donc, j'aurais pu mettre un slide blanc. Voilà. Considérer qu'après celui-là, il y avait vraiment un slide blanc.
Et puis, les femmes ont un peu de conseil au même titre que les hommes, c'était quelle année?
bien, je pense que c'était... Oui, mais je ne sais pas quelle date c'est.
Tu as fait 9 ans.
Oui, mais je me suis arrêté il y a déjà un certain temps. Donc c'était il y a un certain temps.
C'est
à la fin d'Harry. Moi, quand on a commencé avec Elisabeth et Myriam dans le conseil, c'était la fin d'Harry Meyer. On a fait les premières rencontres avec Harry et le début de. Donc, c'est 2007, je crois.
Parce que
non, c'est plus tard que ça.
Attends.
2008.
Oui, des anciens,
oui, oui.
Des hommes anciens. Voilà. Et je pense que c'est après qu'il y a
oui.
eu.
Oui.
C'est oui. 2009, il y a eu Elisabeth, Myriam.
C'est 2009.
2009, oui.
D'accord.
Oui,
c'est possible.
C'est bien avant.
En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne évolution, très favorable. Non, franchement, ça fonctionnait vraiment très très bien. Voilà. Alors moi, je vous ai laissé avec 3 petits points de suspension. Non, il n'y en a que 2. Alors, ce qu'on pourrait retenir de l'histoire, on peut imaginer ça, par exemple. Voilà, quelque chose qui porte du fruit, quoi. Voilà, j'ai fini. Moi j'ai fini, mais je crois que les gens ont levé la main tout le temps. Ils sont pas retenus. Pardon ?
C'est un gros boulot que tu as fait.
Ouais, mais c'était intéressant.
Et pour toi, ta petite lettre de 1900, tu l'avais où, ça ?
Ben, en fait, mon papa qui a participé à la transition entre Colovray, en fait, il était la personne qui communiquait avec, entre autres, l'Église protestante. Je ne sais pas si... Ouais, bref. Il a un classeur avec ses archives à lui. Et ce document-là était dans ces archives-là. De la même manière que le truc de 1962, les 8 pages, là, solidement argumenté, à peu près 2 pages et demie de versets. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas s'il faut comment il faudrait y conserver quelque part, ce serait intéressant.
Il faudrait le numériser.
Ouais.
Alors ça existe. Donc au niveau des brochures, je vous rappelle qu'on est extrêmement bien monté. Je crois qu'il y a un bout de facsimilé de la lettre dans celle-ci. Page 1 et page 2.
Mais là, tu n'en as que 3 exemplaires, mais ça existe en PDF.
Oui, de celui-là, il n'y a que 3 exemplaires, malheureusement.
Mais sur Internet, on peut.
Par contre, il existe en PDF.
Sur Internet, tu te trouves.
Ah voilà,
il est sur Internet.
Il y a 3 exemplaires.
Tu mets le titre, Assemblée de Colombray sur Internet et tu le trouves.
Mais c'est vrai que si on le trouve facilement sur Internet, dit Claire Lise.
Mais les 2 brochures.
Et puis celle-ci, là, on en a alors plusieurs kilos.
Ah oui. Mais c'est ce que Pierre Gérard avait écrit, parce que nous, on a un texte où Pierre Gérard avait écrit.
Non.
Non,
c'est Henri Chollet qui a écrit cette lettre-là. Cette lettre-là, elle a été écrite en 40 et quelques par Henri Chollet. Il est signé là en bas. Souvenir des débuts de l'Assemblée, voilà. Ben, j'ai mentionné un moment, en fait, il y a eu un moment, il y avait plusieurs options qui se discutaient dans l'Assemblée. Peut-être Michel, il se souvient plus. parce que moi j'avais 6 ans, donc 5 même, donc c'est un peu difficile, quoi, peut-être en travaillant beaucoup. Et il y avait plusieurs options qui étaient en même temps. Et il y a une partie, donc il y avait l'idée de construire quelque chose à Virloo, donc juste 2 kilomètres. Il y avait cette idée, mais on pourrait développer un local dans une autre ferme. C'est le choix qui a été fait à Malanie. Puis il y a des gens qui sont partis à la pélisserie, par exemple. Et Agnon aussi. Oui. Voilà. Et puis, il y a ce groupe qui est parti ici, qui était assez courageux, parce que quand on regarde les gens, les familles qui sont nommées, c'est à 60%, c'est des maraîchers, agriculteurs. Ouais, c'est près 60% des familles. Et puis, ils vont se retrouver dans un milieu urbain, puis avec un contexte aussi ecclésial tellement différent, je trouve. Assez bateau.
Voilà. Il y avait Francis Dufour qui était très ouvert, qui tire à fond.
Et puis, ce qu'il faut relever, c'est aussi le grand travail qui a été fait. Bon, Francis Dufour est très ouvert, c'était un des moteurs. Charlie Cortet avait quand même une vision, celle qu'il développe dans les 8 pages, qui est quand même très intéressante. Par exemple, sur le fonctionnement de l'Église, il y a tout un bout sur le fonctionnement de l'Église, où il dit fonctionnement de l'Assemblée. Vous savez, si on se déplace, il ne faut pas que ce soit l'Église ou la communauté d'un seul homme. Parce qu'il dit, si on rejoint des gens qui ont un pasteur, ben, des fois le pasteur il prend l'ascendant sur le. C'est lui là, quelque part, c'est lui qui vient à l'église. Puis il dit, oui, mais chez nous aussi, ça arrive des choses comme ça. dans notre milieu aussi, ça arrive qu'en fait, il y a des caractères tellement forts qu'en fait, ils dominent tout. Et il propose, dans ce document de 62, de créer un conseil qui est élu et reconnu. Et en fait, il va falloir, qu'est-ce que j'ai dit, c'est 71 et 9 ans pour que ça se mette en place. Mais dans ce document, il y a vraiment des éléments qui sont très avant-gardistes pour l'époque et pour le milieu, je pense. Ouais. Et je trouve, pas mal. Et puis, quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour la vision et la structuration et de mettre sur le papier des choses claires, c'est Charles Abel.
Qui a rejoint après, il n'était pas de Colovray.
Non, il n'était pas de Colovray, mais il apparaît très vite à partir de 66, 5 ou 6, on le trouve présent dans les rencontres de. Avant le. Donc, dans les rencontres de frères, si on veut. Ah, les quatre premiers qui ont été nommés, je ne sais pas.
Pendant ces années, depuis que l'Église
est arrivée, les premiers, c'est Bernard Bailly, Francis Dufour, Charles-Abel Piguet et Weiss.
Eugène Weiss. Donc c'est Eugène Weiss, Bernard Bailly, Charles-Abel Piguet et qui?
Francis.
Ah ouais.
Au tout début, il y avait ton papa comme responsable.
Oui, mon papa, il était. C'est pour ça que j'ai le classeur avec les documents. C'est parce qu'il était dans le groupe, en fait, avec Francis et avec Charlie qui ont mené, je sais pas comment dire, conduit la migration. Ah ouais. Ils étaient avec le char et les chevaux devant. Comme disait toujours Jacques Krebs, il disait, vous savez, les grandes migrations vont toujours vers l'ouest, et c'est pour ça que l'Assemblée de Colovray est venue.
Est-ce que l'Église faisait déjà partie des AESR?
Oui, l'Église elle faisait déjà partie des AESR, parce que déjà à Colovray, il y avait des liens. Émile Girardet, le père d'André, ouais, était déjà une cheville ouvrière du... déjà de la prévoyante. Il a été... Il était président de la prévoyance, et puis ils avaient le souci, on envoie ces gens au Laos, mais comment on fait pour qu'ils aient de quoi vivre, comment est-ce qu'on... Il a travaillé justement, c'est pour une des raisons, la création de la Fondation de la prévoyance, c'était pour faire de la prévoyance pour les gens qui partaient. Donc c'est l'embryon... Du thume, quelque part. Ça s'est construit à partir de cette réflexion autour de l'envoi de gens et puis de comment on fait pour assurer administrativement leur subsistance et leur retour aussi. Je ne dis pas d'annerie.
Non, c'est la première structure qui a été mise en place.
Voilà, c'est la première structure. Ouais, ouais.
À une époque, on nous assemblait avec
ouais, ouais. Et en fait... Émile Girardet, il est décédé en 62, et donc juste avant le déplacement.
Ah. ASR a été un nom qui a été donné en 1900, quand ils ont fait les premiers statuts.
Dans les 90.
Oui, je l'ai dit ça il y a 15 jours. En 1995, 6, 7, par l'autre.
Ouais, ils ont rajouté le E. Ils ont rajouté
Église. Évangélique de Suisse. Bon. Ah. Il n'y a pas encore mon
début. C'est pas quand le groupe des ex-darbistes ont rejoint que ça a été nommé ASR.
Non, pas du tout.
Non,
c'est plus tard. D'après mes papiers et mes bouquins, non, c'est en 1990. Ça te fait les premiers statuts avec les premiers statuts. Ça existait déjà, mais ça s'appelait les assemblées de frères,
les pères. Les assemblées de Suisse romande, ASR, pendant longtemps. Puis après, c'est
Heidi.
Il y avait combien de personnes à peu près qui sont venues de Colombray à Mérin en nombre, à peu près, un ordre de grandeur?
Alors, attends, il y a une liste quelque part.
Avec les enfants?
Non, là, ils donnent, dans ce document, ils disent, rappelons simplement le 1er septembre, premier culte à la salle radieuse, qui n'avait radieuse que le nom. Les familles de l'Assemblée qui ont adhéré à cette orientation sont Charlie et Edith Cortet, donc l'auteur, on les a vus là, Francis et Eva Dufour, qui habitaient le chemin du Grand Puy, là en dessous, Jean et Léa Félix,
les grands-parents,
Géry et Marguerite Félix, ses parents, Marguerite Fonjala, Marguerite Fonjala, la maman d'André. Ouais. Les Fonjala, c'était ceux qui étaient dans la ferme au moment où elle a été rasée. Berthe et Gilbert Girardet. Alors, Bertha Girardet, c'est la femme d'Émile, c'est ma grand-maman. Paul et Berthe Girardet, rien à voir. Paul, c'est le fils de Henri Girardet, celui qui a séparé en 1910, créé.
Lui, il était mécanicien.
Lui, il était mécanicien et il avait les tracteurs Ford. J'en ai encore un.
Il y a les pages, non?
Ouais, ouais, attends. Pierre et André Girardet. Donc, André, de cette équipe, c'est la seule qui est encore vivante. Pierre et Myriel Girardet, donc de Russin. Les Girardet de Russin, Denis. Samuel et Déborah Girardet, les parents de Patricia Cossettini. Dany et Madeleine Imbert, qui était à Prévesin. Ah, Déborah. Ah, excusez-moi. Heureusement. Elisabeth Imbert.
Je t'ai dit,
ouais, exactement. Édouard et Marguerite Pache et André et Lydie Serex. Pardon. Pas faire d'impair.
Ok.
Alors... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Là, ça fait 26 et puis il devait y avoir...
Il y a presque 4 enfants.
Oui, mais pas partout. Hein. 2, une quarantaine potentiellement. Et il y avait quelques célibataires, je pense. Par exemple, le frère d'André, Eric Fonjala. Eric, Eric, il apparaît dans les groupes de responsables. Le frère d'André, il était là parce qu'il apparaît dans les groupes de responsables. Donc, voilà.
Alors après, du coup, l'église elle a grandi.
Oui.
Et les gens sont venus de Mérins. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont rejoint l'église, c'était des habitants de Mérins? Ou comment ça s'est passé? Est-ce qu'on sait ça?
Je ne sais pas, on n'a pas d'enquête.
On n'a pas d'enquête.
Et pas tous. Il y a aussi qui viennent d'aller. Nous, on était à la pénisserie. On s'occupait du groupe de jeunes, etc. J'ai commencé le coffee-là. Et puis là, mon cousin Dufour, Francis, il nous a écrit plusieurs fois. Oui, on habite à côté.
Mais vous habitiez là.
On habitait au chemin.
Voilà.
Alors, on habitait là, mais c'est pas le fruit du travail évangélique de Mérins.
Non, mais d'accord, mais vous habitez Mérins.
On habitait Mérins.
Oui, les Paulais.
Nous aussi.
Ouais. Donc l'église elle a grandi avec Mérins, en fait, c'est-à-dire Mérins grandissant, il y a eu plus de monde qui est venu, pas seulement par l'évangélisation, mais aussi parce qu'il y avait des chrétiens qui habitaient Mérins.
Oui, certainement. Ouais.
Et par le travail d'Armand aussi, au niveau du catéchisme et tout, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont rejoint plus ou moins sans renier leur racine protestante, mais
tout à fait.
On se voit au jeune camp, par exemple.
Ouais. Aldeman.
Mais ça, c'est un petit peu le travail qu'on avait tous ensemble.
Les parents de Michel n'ont pas voulu venir à Mérins, donc ils ont créé une église dans la ferme. Puis il y avait Bernard et Clérise Dufour, avec Anne et
Fonjola.
En 77 parce qu'on n'était plus donné.
Mais Bernard
il habitait Chambézy. Ils habitaient Chambézy.
Ben,
l'histoire de l'église, et je disais quelle pierre vivante nous avons même dans l'édification de l'église, et puis ces aïeux, donc ces gens qui ont donc donné la liste, ont été des gens qui dans cette construction, l'édification de l'église a été montée, ont posé une pierre vivante, et ça fait partie de ça, et nous tu veux dire, en 2023 on a aussi encore et toujours des pierres à poser sur ce fondement, je trouve relativement solide. Quand tu lis ces textes, je ne les ai jamais vus, ces textes. Mmh. C'est extraordinaire. Voilà.
Ouais.
Faut les rendre publics, tes textes.
J'ai trouvé aussi intéressant que tu nous rafraîchisses la mémoire sur l'histoire des parcelles et de la convention ecclésiale et tout ça qui disent les liens. L'ego, finalement, qu'on a avec les protestants.
Absolument. Ouais. Oui, on bénéficie.
Les liens étroits qu'on a.
Et on bénéficie très concrètement, physiquement, on bénéficie physiquement de ce travail commun.
Il y a encore le CIC.
Et quelque part, je me demande si on n'en bénéficie pas plus qu'eux, non. Tire des avantages. Oui,
et
oui.
Puis ils en profitent, ils vont faire
la
prière régulièrement.
Tout à fait.
Il y avait parole et silence. Ouais. Je crois que l'église protestante utilise bien la chapelle pour des cultes de Noël aussi, etc.
Ouais.
Surtout maintenant, il est bien.
Bon, je peux débrancher ce truc.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Michel.
Merci. Je vous propose un drapeau de l'église.
Je précise que le PowerPoint, c'est juste Michel, il est à disposition.
Bien sûr, il est à disposition. C'est vite assez lourd, hein, ces PowerPoint, mais on peut faire des trucs avec, je sais pas, avec quoi, on met un lien quelque part.
On a, il y a un dossier historique.
ceux qui ont un accès au cloud de l'église peuvent aller voir. Il y a les brochures que tu as présentées, elles sont en PDF.
Ouais.
Et ton PDF, ton document, ça peut se mettre au même endroit.
Ouais. Il faut se méfier avec le OnCloud, c'est que les accès ne sont pas si évidents que ça.
Entre lui et moi, on n'a pas les mêmes données.
Ouais, bon, ça c'est compréhensible, c'est pour certaines choses.
Ouais.
Mais là,
le cloud, c'est bon.
C'est l'accès public, ça. L'historique, il est déjà un accès public, ce n'est pas des trucs privés.
D'accord.
Si vous me permettez, j'aimerais juste faire quelques remarques pour nourrir notre réflexion. L'histoire, il faut s'en nourrir pour se projeter de l'avant. Et merci beaucoup Michel, Paul Robert, il y a 3 semaines pour ce que vous avez apporté. L'histoire, c'est... on en a besoin pour aller de l'avant. Pas seulement pour dire c'était génial ce qui s'est fait avant ou c'était critiquable ici ou là, mais... C'est pas seulement regarder par-dessus l'épaule, c'est aussi regarder de l'avant. Moi, j'ai noté juste 2-3 choses qui m'ont beaucoup touché. Alors, je crois que je suis le plus récent à peu de choses près dans cette noble assemblée. Mais je suis très touché par ce que je découvre, entends ou réentends. Je me suis noté quelques mots. Le premier que j'ai noté, c'est le mot « audace ». C'était audacieux ce qu'ils ont fait en osant investir la cité de Merin. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous oserions nous montrer encore audacieux? Pas juste assurer ce qui fonctionne plus ou moins bien, pas juste être dans le bocal, mais être audacieux. Le deuxième mot, la série de mots que j'ai retenu ensuite, c'est des mots comme progressif. Parce que quand même, je trouve que l'église de Merin a bien des titres, elle est progressiste. Un mot comme ouverture, avec toute la collaboration œcuménique. Elle est connue, cette collaboration œcuménique. On a eu, il y a 2 ans de cela maintenant, une pastorale frais avec l'évêque. Genève, Lausanne, Fribourg, Morero. 2 mots échangés avec lui et il m'a dit, et je m'en souviendrai longtemps, hein, parce que c'est 30 secondes, le gars il me dit, Merin, il se passe des choses à Merin, n'est-ce pas? Vous connaissez donc le père Imbert, c'était encore du temps de Olivier, enfin, voilà. Juste pour dire, une ouverture sur laquelle moi je suis absolument convaincu qu'il y a des choses à faire encore. Voilà, progressif, ouverture, novatrice. J'ai retenu aussi l'importance de l'annonce de l'évangile. Visiblement, à certains moments, l'église de Merin a été audacieuse dans l'annonce de l'évangile. Des fois, voilà, je m'interroge, est-ce qu'on l'est encore? Alors oui, les temps ont changé, les manières de faire ont changé, mais le message de l'évangile, il reste entièrement pertinent. Annonce de l'évangile. Et puis, la dernière chose que je retiens, c'est les gens. C'est peut-être aussi un petit peu écho à la question du sacerdoce universel, mais plusieurs noms, plus ou moins connus pour moi, ont été cités. Les gens, encore une fois, l'Église, c'est des gens. C'est des hommes et des femmes qui se bougent. Et qui... alors, je perche à des convaincus, hein. Mais l'Église, c'est des gens. Alors, j'espère qu'on arrivera à faire résonner ça dans les mois, les années qui viennent, de l'audace, être progressif, ouvert, progressiste. Novateur.
Progressiste,
j'ai dit quoi? Progressiste. N'oublions pas l'annonce de l'évangile, le salut pour quiconque croit, et puis les gens y comptent.
Un temps, on faisait joie à Noël, hein, il en a parlé.
Ouais.
C'était les 3 communautés, hein,
ouais.
Les catholiques, protestants et nous. Il y a longtemps qu'on n'a pas pu faire.
Ouais. Et c'est un vrai sujet de préoccupation dans nos rencontres pastorales, où depuis quelques années, le Covid est aussi passé par là, il faut le reconnaître, c'est compliqué de le détailler, mais je peux vous dire que les ministres protestants, catholiques, évangéliques, on constate tous un certain repli. Et il est de plus en plus difficile de dire on est d'accord de se bouger ensemble. Il est même déjà difficile de se bouger. Nous, je vois quand on prépare les 60 ans de l'Église, on est peu nombreux. Quoi. C'est une petite équipe. Il y aurait de la place pour 10 fois plus. Donc on constate un certain repli qui inquiète.
Je crois qu'il y a aussi un changement. On a fait beaucoup de choses en fonction de temps. Avec, par exemple, le centre commercial qui était quand même au centre, les expositions, ouais. Les joies à Noël. Et les commerçants étaient d'accord pour faire des vitrines, faire une crèche vivante dans le centre. Hein. Et aujourd'hui, c'est fini.
Ça, c'est fini.
C'est fini. D'ailleurs, il y a bientôt plus de place dans ce centre. Il faut retrouver quelque chose d'autre.
Exactement.
Mais ça, c'est vrai que c'est la nouvelle génération. Nous, on a été une des générations qui avons fait ça. Maintenant, il y a des nouvelles générations. Et ces nouvelles générations, voilà. Faut qu'on puisse travailler ensemble.
Il y a de la place pour l'audace.
Il y a de la place pour la diversité, je trouve aussi.
Merci.
Simplement dans l'annonce de l'Évangile, on voit qu'il y a des actions de nature très diverses.
Ouais.
Il y a des actions qui sont juste ponctuelles. Il y a des actions qui sont de l'annonce publique sous une forme ou une autre, typiquement Joie à Noël, c'est ça. Mm-hmm. On raconte l'histoire là, puis on le fait de manière à ce que ça puisse être entendu. Mais il y a des actions qui sont tout à fait d'une autre nature. La garderie était conçue dans cette idée. Ouais. Le coffee bar, c'était conçu dans le but du contact avec des personnes. Il faut pas se figer sur des manières de faire, il faut faire avec son génie propre, avec ses capacités propres, les capacités qu'il y a à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis on cherche pas à être obnubilé par ce qui a déjà été fait.
Ouais. Ouais.
Je pense que ça, c'est dangereux de cristalliser sur des manières de faire puis voilà, qui ne correspondent pas aux personnes, simplement. Ouais. Ouais. Aux personnes qui veulent dire quelque chose de Jésus-Christ.
Mm. Bah d'ailleurs, si les gens qui étaient venus là au début, ils avaient voulu faire exactement comme ils avaient fait à Colombray, ça aurait clairement raté. Quoi. C'est parce que justement, ils n'ont pas voulu faire exactement comme ils faisaient avant. Ils ont inventé des nouvelles choses.
Oui, c'est la prise de risque, en fait.
Alors que le Seigneur nous soit en aide, hein, parce qu'il y a des défis considérables, que le Seigneur nous soit en aide. Encore merci beaucoup à Michel. Et puis on se retrouve dans 15 jours, si vous voulez bien, pour la suite des ateliers bibliques. Je ne sais plus. Oui, je pense. Mais j'ai repris ce matin. Voilà, ça reviendra, mais on va communiquer. Par contre, dimanche prochain, culte spécial Fête des Mères, avec une belle thématique, des témoignages magnifiques qui sont en préparation. Aussi un culte à vivre autrement, dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde, et puis à bientôt. Bonne soirée.
Merci.